Bienvenue à toi pour une nouvelle plongée, une deep dive. On s'attaque à un document que toi-même choisis.
Ah oui.
Le rapport annuel 2023-2024 de la Cour des comptes marocaine.
D'accord.
Fraîchement publié en ce mois de novembre 2024, il est crucial pour comprendre où en est le Maroc aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
C'est un peu comme un instantané
Exactement.
de situation économique,
Social aussi.
avec ses défis.
Ses progrès, bien sûr.
Et puis, les points de vigilance à surveiller. Surtout dans le contexte actuel,
Oui.
on a eu la reprise post-Covid,
Oui.
le tremblement de terre dévastateur de septembre 2023, et puis les grands chantiers nationaux en cours,
Tout à fait.
comme la réforme de la sécurité sociale ou le programme d'approvisionnement en eau.
C'est ça.
Sans oublier les ambitions du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030
Ah oui.
et la Coupe d'Afrique 2025.
Exactement.
On peut dire que le pays a du pain sur la planche.
Oui.
Mais commençons par le commencement.
Ah, allez-y.
Qu'est-ce que ce rapport nous dit sur la gestion des finances publiques?
Alors là, le rapport souligne un paradoxe intéressant.
Un paradoxe gay?
Oui, d'un côté, on a les recettes fiscales qui ont connu une croissance notable grâce aux réformes de 2022.
Oui.
Mais de l'autre, la Cour des comptes s'interroge sur la durabilité de cette croissance.
Ah bon?
Est-ce que ce rythme est tenable sur le long terme? Quel impact aura-t-il sur les recettes de l'État? Ce sont des questions qui restent en suspens.
Donc une croissance qui appelle à la prudence, en quelque sorte.
C'est fait.
Et qu'en est-il de la manière dont ces recettes sont utilisées? Le rapport semble insister sur la nécessité d'une meilleure priorisation
Oui.
et puis d'une évaluation des projets d'investissement.
Absolument, la Cour des comptes met le doigt sur un point crucial.
Lequel a?
S'assurer que chaque dirham investi génère un retour sur investissement optimal pour le pays. Ce qui n'est pas toujours évident. D'autant plus que l'audit des comptes de l'État est un exercice particulièrement complexe au Maroc.
Pourquoi cette complexité?
Le système comptable public marocain est un véritable millefeuille,
Ah.
avec des strates qui remontent à plusieurs décennies.
Ah oui.
Imagine le nombre d'acteurs impliqués,
Oui.
le volume colossal de transactions, le tout reposant sur des systèmes informatiques parfois obsolètes.
D'accord.
Cela rend la tâche des auditeurs extrêmement difficile.
Un vrai casse-tête, en effet.
Ah.
Le rapport le souligne d'ailleurs.
Oui.
Pour moderniser ce système, il est indispensable de renforcer le contrôle interne et de mettre en place des procédures plus efficaces d'accès et d'échange de données.
Tout à fait, c'est une condition sine qua non.
Pourquoi?
Pour une gestion transparente et efficiente des deniers publics.
Passons maintenant aux grands programmes nationaux,
Oui.
ces chantiers qui façonnent l'avenir du Maroc. Le rapport se penche notamment sur la réforme de la sécurité sociale.
Oui.
Un projet colossal qui vise une couverture universelle d'ici 2026.
Exactement, l'ambition est là. Mais le rapport soulève des questions cruciales,
Lesquelles?
notamment sur le plan financier.
D'accord.
Le coût de la réforme est estimé à 53,5 milliards de dirhams.
C'est énorme.
Oui, une somme considérable qui nécessite un financement durable. Or, le rapport pointe du doigt la situation financière préoccupante de la Caisse marocaine des retraites,
Wow.
qui affichait un déficit de 9,8 milliards de dirhams fin 2023.
Un signal d'alarme qui donne à réfléchir.
Oui.
Et qu'en est-il du programme national d'approvisionnement en eau,
Ouais.
un autre chantier majeur?
Là aussi, l'enjeu est de taille. Pour répondre à une demande croissante en eau potable,
Oui.
exacerbée par les sécheresses récurrentes et la croissance démographique.
D'accord.
Or, le rapport met en évidence un déséquilibre majeur dans la répartition des ressources hydriques au Maroc.
Ah oui.
Plus de la moitié des ressources en eau de surface sont concentrées dans seulement deux bassins, laissant les huit autres bassins face à un déficit combiné, ce qui souligne l'importance d'une gestion efficiente et durable de cette ressource vitale.
Oui, tout à fait.
Justement, le rapport se penche également sur des secteurs spécifiques,
Oui.
comme l'éducation, le développement urbain et le changement climatique. Prenons l'éducation, par exemple. Qu'est-ce qu'on en retient?
Le rapport salue les progrès dans l'expansion de l'éducation préscolaire,
D'accord?
mais souligne la nécessité de prendre en compte tous les objectifs de la vision stratégique, y compris la participation du secteur privé, qui est en plein essor dans l'enseignement supérieur.
Ce qui pose la question de la régulation et du contrôle de la qualité de cet enseignement privé.
Exactement. Il est essentiel de garantir que le développement de ce secteur se fasse dans le respect des standards de qualité et d'équité.
Et en ce qui concerne le développement urbain,
Oui.
le rapport analyse les défis auxquels sont confrontées les nouvelles villes au Maroc.
Oui, et malgré l'objectif d'alléger la pression sur les grandes villes.
Et de promouvoir le développement régional. Le rapport constate que le programme des nouvelles villes n'a pas atteint ses objectifs.
C'est un constat assez décevant.
Oui.
Quelles sont les raisons de cet échec?
Le rapport identifie plusieurs facteurs.
D'accord.
L'absence de cadre juridique clair, la cohérence des initiatives et une planification déficiente des équipements publics.
D'accord.
Par exemple, certaines nouvelles villes manquent cruellement d'infrastructures de base.
Ah oui.
Comme les écoles, les hôpitaux ou les transports en commun, ce qui les rend peu attractives pour les habitants et les investisseurs.
Des obstacles importants à surmonter.
Oui.
Qu'en est-il du changement climatique? Le Maroc s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre
oui.
et à renforcer sa résilience face aux impacts du réchauffement.
Absolument.
Est-ce que ça va dans le bon sens?
Alors, le rapport met en évidence un manque de coordination.
Ah bon?
Et un décalage entre les stratégies et les plans d'action. Il insiste sur la nécessité de feuilles de route claires et d'objectifs mesurables pour passer des intentions à l'action.
Des points cruciaux pour que le Maroc puisse tenir ses engagements climatiques.
Oui.
Passons maintenant au cœur du rapport.
D'accord.
Les missions de contrôle de la Cour des comptes.
Oui.
Et leur impact sur la gestion publique.
La Cour a mené 236 missions de contrôle. Ciblant les collectivités locales, les institutions publiques et les entreprises publiques.
D'accord.
Ces missions ont permis de mettre en lumière des dysfonctionnements,
oui.
des gaspillages et parfois même des malversations.
Et ces missions ont eu un impact tangible
oui.
sur l'amélioration de la gestion publique.
Tout à fait. Par exemple, les collectivités locales ont pris des mesures correctives pendant et après les audits, ce qui a permis de recouvrer des millions de dirhams.
Ah.
Le rapport cite un exemple concret.
Lequel, Ram?
La récupération de plus de 9 millions de dirhams par des municipalités de la région Femekneh suite à des audits de contrats de gestion des déchets.
Des résultats concrets qui prouvent l'importance de ce travail de contrôle.
Oui.
Le rapport met également en lumière un défi majeur.
Oui.
Le suivi et la mise en œuvre des recommandations de la Cour.
Oui, malgré des progrès dans certains domaines, le rapport souligne la nécessité d'un engagement accru des ministères et des entités publiques pour répondre aux recommandations en suspens.
D'accord.
En particulier celles liées aux initiatives nationales stratégiques.
Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires pour garantir une meilleure gouvernance et une gestion plus efficace des fonds publics.
Tout à fait.
On dirait qu'il reste du travail à faire.
Oui.
Mais on va s'arrêter là pour cette première partie.
D'accord.
On se retrouve dans la deuxième partie pour explorer plus en détail les autres aspects importants de ce rapport.
Avec plaisir.
À tout de suite.
À tout de suite. On a vu dans la première partie que la Cour des comptes, elle a mené un travail approfondi
oui.
sur les finances publiques, les grands programmes nationaux. Mais ce n'est pas tout.
Ah non.
Le rapport se penche également sur des sujets plus spécifiques, comme la déclaration des biens, le financement des partis politiques,
oui.
le soutien aux associations.
D'accord.
Ou encore la gestion des marchés publics. Autant de domaines qui touchent directement la vie des citoyens et qui méritent une attention particulière.
Commençons par la déclaration des biens.
Oui.
Est-ce que le rapport a mis en lumière des points à améliorer dans ce domaine?
Oui, absolument.
Ah oui.
Le rapport constate un manque de rigueur dans le suivi des déclarations
oui.
et dans l'identification des personnes tenues de les déposer.
D'accord.
Il pointe du doigt des failles dans le système actuel.
Lesquelles?
Qui ne permet pas de centraliser et de croiser les données de manière efficace.
C'est qui en fait.
Difficile, voire impossible.
D'accord.
De vérifier l'exhaustivité et la véracité des déclarations.
Un problème de transparence en somme.
Exactement. Le rapport recommande de mettre en place un système plus robuste,
oui.
capable de collecter, de centraliser et d'analyser les données de manière plus rigoureuse.
D'accord.
L'objectif, c'est de garantir une meilleure transparence
wow.
et de lutter contre l'enrichissement illicite.
Et en ce qui concerne le financement des partis politiques,
oui.
un sujet toujours sensible.
Ah oui.
Qu'est-ce que le rapport met en avant?
Le rapport souligne la nécessité de renforcer le contrôle. Les dépenses des partis,
oh.
et puis de veiller au respect des règles de transparence et de bonne gouvernance.
D'accord.
Il recommande notamment de mettre en place des mécanismes de contrôle plus stricts sur l'origine des fonds
oui.
et l'utilisation qui en est faite.
Donc, plus de transparence et de rigueur dans la gestion de l'argent public alloué aux partis politiques.
Tout à fait. Le rapport insiste également sur la nécessité d'adopter un système de sanctions plus dissuasif en cas de manquement à règles.
Oui.
Il ne suffit pas de constater les infractions. Il faut aussi pouvoir les sanctionner de manière efficace. pour décourager les comportements frauduleux.
Des règles claires.
Oui.
Et des sanctions efficaces.
Mm-hmm.
C'est la base pour une démocratie saine.
Tout à fait.
Qu'en est-il du soutien aux associations?
Oui.
Le rapport en parle également.
Oui, et il pointe du doigt un manque de transparence et de contrôle.
Mm.
Dans l'attribution des subventions aux associations,
d'accord,
le rapport constate que les critères d'éligibilité ne sont pas toujours clairs et que le suivi de l'utilisation des fonds publics laisse parfois à désirer.
Donc, un risque de favoritisme et de détournement de fonds publics.
Exactement.
Mm.
Le rapport recommande de mettre en place des critères d'éligibilité plus précis et objectifs et de renforcer le suivi de l'utilisation des subventions accordées aux associations.
D'accord.
L'objectif, c'est de garantir que l'argent public soit utilisé à bon escient et qu'il profite réellement aux bénéficiaires.
Un objectif louable, en effet. Et pour finir ce tour d'horizon des points sensibles, qu'en est-il des marchés publics? Un autre sujet qui mérite une attention particulière.
Absolument, les marchés publics représentent une part importante des dépenses de l'État.
Oui.
Et il est crucial de veiller à ce qu'ils soient gérés de manière transparente et efficiente.
Mmh.
Or, le rapport met en évidence des faiblesses.
Des faiblesses?
Oui.
Dans la gestion des marchés publics?
D'accord.
Notamment en termes de transparence, de concurrence et de contrôle des prix.
Mmh.
Des faiblesses qui peuvent coûter cher à l'État et aux contribuables.
Oui, c'est sûr.
Le rapport recommande d'améliorer les procédures de passation des marchés, de renforcer la formation des agents chargés de leur gestion et de mettre en place des mécanismes de suivi plus efficaces.
D'accord.
L'objectif, c'est de garantir une meilleure utilisation des deniers publics et de lutter contre la corruption.
Des recommandations qui visent à moderniser et à assainir la gestion des marchés publics.
On voit bien que ce rapport aborde des sujets sensibles.
Oui.
Importants pour la bonne gouvernance du pays.
Tout à fait.
Mais on n'est pas au bout de surprise, j'imagine.
Bah non.
Qu'est-ce que la Cour des comptes a d'autre à nous dire?
Eh bien, le rapport se penche également sur l'analyse de secteurs clés, comme l'éducation, la santé, l'environnement, l'énergie, le tourisme.
D'accord.
Autant de domaines cruciaux pour le développement du Maroc.
Tout à fait.
On en parlera plus en détail dans la troisième partie.
Impatient de découvrir tout ça. On se retrouve donc pour la suite et fin de notre plongée dans quelques instants.
Avec plaisir. À tout de suite.
À tout de suite.
De retour pour la dernière partie de notre deep dive. On a vu les finances publiques, les grands programmes, les points sensibles de gouvernance. Place à l'analyse sectorielle. On commence par l'éducation.
Mmh. Mmh.
Un domaine fondamental pour l'avenir du Maroc. Qu'est-ce que le rapport nous apprend sur ce sujet? Eh bien, le rapport met en lumière un défi majeur, la qualité de l'enseignement.
Ah oui?
Il souligne la nécessité de réformer les programmes scolaires, de les adapter aux besoins du marché du travail, aux enjeux du 21e siècle.
Oui.
Il faut aussi renforcer la formation des enseignants, leur donner les outils pédagogiques et les connaissances nécessaires pour accompagner au mieux les élèves.
Donc une refonte en profondeur du système éducatif.
Oui, pour qu'il soit plus performant et plus équitable.
Mm.
Le rapport insiste aussi sur la nécessité d'améliorer les infrastructures scolaires.
Ah oui.
Trop d'écoles, notamment dans les zones rurales, manque de moyens, d'équipements, voire d'espace pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Il faut investir massivement dans la construction et la rénovation des écoles pour garantir un accès égal à l'éducation pour tous les enfants du Maroc.
Un chantier colossal, mais indispensable pour l'avenir du pays. Et la santé. Le rapport s'intéresse aussi à ce secteur crucial.
Bien sûr! Le rapport pointe du doigt les inégalités d'accès aux soins entre les différentes régions du pays. Les zones rurales et les populations les plus démunies sont souvent les plus mal loties,
oui,
avec un accès limité aux infrastructures sanitaires et aux professionnels de santé.
Un problème de justice sociale, en somme.
Tout à fait. Le rapport recommande de renforcer les investissements dans le secteur de la santé, de mieux répartir les ressources entre les différentes régions et d'améliorer la gestion des hôpitaux.
D'accord.
Il faut aussi développer la médecine de proximité, rapprocher les soins des populations et mettre en place des mécanismes de solidarité pour garantir l'accès aux soins pour tous, quelle que soit leur situation géographique ou financière.
Des mesures essentielles pour garantir le droit à la santé pour tous. Passons maintenant à l'environnement, un enjeu de plus en plus crucial dans le contexte du changement climatique. Qu'est-ce que le rapport préconise dans ce domaine?
Alors, le rapport souligne l'importance de lutter contre la pollution, de préserver la biodiversité et de promouvoir une économie verte. Il recommande d'adopter des politiques plus ambitieuses en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre, de protection des ressources naturelles et de développement des énergies renouvelables.
Donc, accélérer la transition vers un modèle de développement plus durable.
Exactement. Plus respectueux de l'environnement. Le rapport insiste également sur la nécessité de sensibiliser davantage la population aux enjeux environnementaux, d'encourager les comportements éco-responsables et d'impliquer les citoyens dans la protection de leur environnement.
Un effort collectif qui implique l'ensemble de la société. Et l'énergie à Port-Lé. Le Maroc a fait des progrès considérables dans le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Est-ce que le rapport en fait mention là ?
Oui, le rapport salue les efforts du Maroc dans ce domaine. Mais il souligne la nécessité de poursuivre les investissements dans les énergies renouvelables, de diversifier les sources d'énergie et de renforcer l'efficacité énergétique. L'objectif, c'est de réduire la dépendance du Maroc aux énergies fossiles et de faire du pays un leader régional en matière d'énergie verte.
Un objectif ambitieux, mais à la portée du Maroc, qui dispose d'un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable. Et pour terminer ce tour d'horizon, on va parler du tourisme, un secteur vital pour l'économie marocaine. Qu'en dit le rapport ?
Le rapport souligne le potentiel du tourisme marocain, sa diversité, sa richesse culturelle et naturelle, mais il met en garde contre les risques de saturation et de dégradation de l'environnement. Mmh. Il recommande de développer une offre touristique plus diversifiée et durable, en misant sur l'authenticité, la culture, la nature, ouais, et en impliquant les communautés locales dans le développement du tourisme.
Donc un tourisme plus responsable, plus respectueux de l'environnement et des populations locales.
Exactement. Il faut éviter de reproduire les erreurs du passé et veiller à ce que le tourisme profite à tous les Marocains, et pas seulement à une poignée d'opérateurs ou d'investisseurs.
Voilà qui conclut notre analyse du rapport annuel 2023-2024 de la Cour des comptes marocaine.
Oui.
Un document riche en informations, en analyses et en recommandations.
Un document qui met en lumière les forces et les faiblesses du pays et qui trace une feuille de route pour un développement plus juste, plus durable et plus prospère pour tous les Marocains.
Merci à toi pour cette plongée éclairante. Et toi, cher auditeur, n'hésite pas à consulter le rapport complet pour approfondir les sujets qui t'intéressent. On te retrouve très bientôt pour une nouvelle Deep Dive. Toujours plus instructive et passionnante. À bientôt.